Bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre présence parmi nous ce soir. Alors, nous avons le plaisir pour cette conférence d'accueillir ici à l'ENSIB Jean-François Bert, je reprends honteusement sa biographie, parce qu'il est maître d'enseignement et de recherche, chez nous on dit enseignant-chercheur, mais en Suisse on dit maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, chercheur associé au LabEx Aztec. Et ce qui ne figure pas dans sa biographie, il a fait un rapide passage parmi nous il y a quelques années pour nous aider à travailler sur un certain nombre de fonds d'archives qui sont dans notre bibliothèque et sur lesquels, enfin au moins un, est en train d'être traité par des étudiants de master dont je vois quelques représentants dans la salle et qui te remercient de ce travail d'indexation qui leur permet... de mener un projet fort intéressant de numérisation et de mise en ligne de ces fonds. L'intervention de Jean-François s'appuie donc sur un ouvrage qui est paru chez Open Edition Books, que vous pourrez donc trouver à la fois en version imprimée dans notre bibliothèque et en format numérique également de notre bibliothèque. Les deux sont... Et qui porte donc sur la question des archives de chercheurs. Alors, sans dévoiler un certain nombre de questions qui ont émergé à la lecture de cet ouvrage, c'est vrai que c'est assez intéressant de lire un livre qui porte sur une pratique que l'on est censé connaître assez précisément, puisque c'est un peu la nôtre en tant que chercheur. Et j'ai été à la fois rassuré devant certaines illustrations de l'ouvrage qui montrent des bureaux de chercheurs qui sont dans des états bien plus cataclysmiques que le mien, et donc je me suis dit ça va. Et à la fois vraiment intéressé par les différentes approches qu'on retrouve dans l'ouvrage et... de mettre la mise un peu en articulation de ces approches et de ces pratiques par rapport à la question de l'archive. Il me semble que c'est une question qui prend un sens tout particulier aujourd'hui, à la fois dans le sens de l'archive numérique, ou qu'est-ce qu'une archive dans un environnement numérique. C'est une question qui n'est pas propre aux chercheurs, mais qui va quand même à un moment ou à un autre se poser d'une façon très forte pour les historiens des sciences ou autres qui voudraient traiter ces questions, et à la fois dans une dynamique tout à fait intéressante dans ce qu'on a, enfin, toute la dynamique qui se développe aujourd'hui autour des données de la recherche, qui constitue un autre angle des archives des chercheurs, c'est-à-dire que la volonté de plus en plus forte des universités ou d'autres ou de SCD de participer à la construction d'une... Alors, je ne sais pas, d'archivage, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais en tout cas d'une préservation des données issues de la recherche, ou des données de la recherche, à la fois comme données réutilisables, réexploitables, ou avec une vocation patrimoniale. Donc ça fait partie des quelques points que j'aborderai en question si tu ne les abordes pas dans la présentation, et sur lesquels on pourra rediscuter, et je te passe tout de suite la parole.
Merci. Merci pour cette présentation et pour ces questions dont je n'ai pour le moment pas du tout la réponse. Ça me permet déjà de m'excuser auprès de vous parce que je ne suis ni un spécialiste de l'archive, ni un professionnel institutionnel de l'archive, ni un professionnel du traitement de l'archive, de la conservation de l'archive, des inventaires des archives, encore moins un spécialiste des sciences de l'information et des bibliothèques, encore moins un historien. Donc, vous allez voir que... Je ne suis pas tout ça, mais je suis plein d'autres choses, donc c'est ce qui explique peut-être l'intérêt que tu as trouvé à lire ce livre. En tout cas, merci pour ta lecture. Donc ça, c'était la première salve d'excuses que je voulais faire en introduction, non pas pour me dédouaner de toutes les bêtises qui vont être enregistrées et que vous allez pouvoir écouter chez vous. La deuxième salve d'excuses que je voudrais lancer, c'est que je vais commencer par un constat. Alors c'est toujours un peu difficile de commencer et d'introduire une intervention en faisant un bilan, mais en même temps, je me suis dit que ça allait être un moyen d'entrer dans cette vaste problématique de l'archive ou des archives. Hein, vous voyez que le titre est au singulier, ce qui fait bondir les archivistes. En même temps, il y a un sens évidemment à parler de l'archive au singulier et pas au pluriel. Ce qui ne signifie pas que j'oublie qu'il y a une hétérogénéité, une diversité très grande dans les archives que je traite plus et qui sont plus particulièrement des archives de chercheurs. Alors, ce constat ou ce bilan qui va me permettre d'introduire ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que travailler ou parler des archives des chercheurs, de la recherche, des savants, des érudits, enfin, vous trouvez plein de noms qui renvoie au titre de ce petit livre, c'est pas quelque chose de très nouveau. Hein, ça, les premiers travaux d'historiens, plus particulièrement et d'historiens des sciences, qui utilisent l'archive pour parler de la recherche, des sciences, des savoirs, des érudits ou des savants, c'est la fin des années 70 ou le début des années 80, qu'on va voir émerger un certain nombre d'ouvrages et un certain nombre d'approches méthodologiques tout à fait particulières qui se saisissent des archives de la recherche ou des archives universitaires, autre nom qu'on peut trouver pour qualifier ces archives. La chose qu'il faut noter, et qui me permet peut-être d'introduire une première différence avec ces ouvrages déjà anciens, même si c'est les années 80, c'est déjà ancien d'une certaine manière, c'est que ces ouvrages se sont surtout focalisés, j'allais dire, sur les données institutionnelles des archives, et donc qui sont par nature plus qualitatives, plus quantitatives. Ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que ce que l'on appelle au contraire les archives privées ou les archives personnelles des chercheurs, qui sont, elles, par nature, beaucoup plus qualitatives, n'ont pas été utilisées, ou n'ont pas été suffisamment utilisées. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ce petit manque, j'allais dire ça comme ça. Il y a d'abord une raison juridique. Vous le savez sans doute, mais le traitement et la conservation des archives est lié à une loi, la loi de 1979, qui est reprise en 2004, etc. Elle est très souvent réactualisée. Et cette loi fait la partition entre ce que l'on appelle d'une part les archives publiques, et il y a 25 alinéas qui vous définissent ce que sont les archives publiques, et puis dans tout ça vous devez comprendre que ce qui n'est pas de l'archive publique, ce qui ne résulte pas d'une activité publique au sein d'une institution publique, par exemple moi en travaillant à l'université, tout ce que je fais doit rentrer dans le cadre d'un archivage public, tout ce qui n'est pas ça c'est du privé. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de flottement autour du privé, et que les frontières juridiques autour de ces archives privées sont flottantes, et que tout dépend du cas, d'une certaine manière. Donc ça a été un premier obstacle assez important, et qui continue de l'être, parce que cette loi qui a été reprise donc en 2004 et qui, je crois, vient d'être retravaillée, continue à ne pas dire explicitement ce que sont que les archives privées ou personnelles. Donc il faut toujours avoir en regard le fait que il y ait archives publiques et archives privées. Ça, c'est un premier obstacle peut-être au fait qu'on a eu beaucoup de mal à travailler sur les archives privées et personnelles des chercheurs, des savants ou des érudits. Mais je ne m'appesantis pas trop sur ça dans le livre, encore une fois parce que je ne suis pas spécialiste du patrimoine. J'essaie surtout de montrer qu'il y a un certain nombre d'obstacles beaucoup plus scientifiques et méthodologiques à la conservation et donc au traitement aussi de ces archives privées de chercheurs, avec une question toute simple. Quand vous êtes archiviste dans une université ou aux archives nationales ou n'importe où, dans n'importe quelle institution d'archives, un beau matin, le lundi matin, vous voyez arriver quelqu'un avec des cartons et on vous dit ça c'était à mon arrière-grand-père ou à mon grand-père, il enseignait à l'université. On a retrouvé ça, c'était dans la cave, nous on va le jeter, ça c'est dans le meilleur des cas, on va le jeter, on vous le laisse. La première question évidemment c'est qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'on doit conserver et est-ce qu'on doit conserver et pourquoi est-ce qu'il faut conserver? Donc ça, en face de cette question-là, que tout archiviste se pose à un moment donné, il n'y a pas beaucoup de réponses. En tout cas, ça se fait un peu par l'expérience de l'archiviste qui sait que ce papier-là peut à un moment donné être plus important qu'un autre et donc il faut absolument le conserver. Ces obstacles scientifiques, hein, ce savoir-faire de l'archiviste qu'on n'aborde jamais ou très très peu, ça me semblait être un élément intéressant sur lequel j'ai un tout petit peu écrit. J'ai commencé ce livre sur ça. Les autres obstacles scientifiques qui me paraissaient étrange, enfin, en tout cas pour moi, dans ma pratique d'archives, c'est que jusqu'il y a encore très peu de temps, quand les historiens, les sociologues des sciences ou les philosophes s'intéressaient aux archives d'un auteur, comme Michel Foucault, comme Jacques Derrida, comme je sais pas, Roland Barthes, n'importe Lévi-Strauss, ils s'intéressaient toujours, systématiquement, ça c'est systématique, d'abord aux inédits, la grande catégorie d'archives, les inédits, hein, ce que contiennent les archives, c'est d'abord ce qui n'est pas publié, donc c'est d'abord ça, les manuscrits. Deuxième grande catégorie d'archives, les manuscrits des livres, les versions différentes, je ne sais pas moi, de la grammatologie par exemple de Derrida, il y en a 4 ou 5. Ou troisième autre catégorie d'archives très souvent utilisée par ces historiens ou ces sociologues des sciences, les correspondances. Donc vous avez comme ça les inédits, les manuscrits, les correspondances qui sont généralement les trois piliers, les trois grands massifs d'archives qui sont utilisés. Et rien sur tout le reste. Quelques petites choses sur les carnets d'ethnologues, parce que c'est folklorique, les gens qui vont sur le terrain, ils écrivent leurs pensées, tout ça, donc on travaille sur ça, mais sinon rien sur les brouillons, rien sur les fiches, rien sur les bibliothèques, très peu de choses. Et donc j'ai toujours été très étonné du fait que il y a une certaine, comment dire, orthodoxie dans la manière de voir les archives, du côté des historiens ou des sciences sociales, de manière très générale. Alors c'est ce qui m'a conduit, et c'est ce que je voudrais faire avec vous maintenant, après cette longue, trop longue introduction, je voudrais essayer de vous emmener dans les archives, mais non pas en les voyant comme les verrait un spécialiste du patrimoine ou de l'archive, ni comme un historien, mais plutôt comme les verrait un ethnologue. Alors, je vais essayer de vous emmener dans une espèce de regard distancié sur ces documents, ces massifs documentaires que sont les archives de chercheurs. Alors pourquoi est-ce que la posture de l'ethnologue me paraît intéressante pour entrer dans un fonds d'archives de chercheurs? La première chose, c'est que ça permet de dire, en allant en ethnologue dans ces fonds, c'est un peu ce que j'ai fait, hein, pas forcément, encore une fois, je me suis excusé de ça, mais je ne suis pas spécialiste des archives, donc j'ai été voir, j'ai été ouvrir des cartons, j'ai demandé des documents, et j'ai regardé ça un peu de manière interloquée à chaque fois. Je me suis demandé, enfin, ce regard ethnologique m'a permis de prendre conscience que ces archives privées, ces archives personnelles, les brouillons, les fiches, les bouts de livres, les photocopies, alors ça, quand vous travaillez sur les auteurs post-années 60, post-xérographie, vous avez des photocopies de photocopies de photocopies annotées, réannotées, refotocopiées, enfin bon, c'est une espèce de chose complètement délirante, mais qui est un état du savoir, donc c'est très intéressant de le prendre comme ça. Donc ça me permettait de voir que, justement, ces archives qu'on avait oubliées jusque-là, elles n'étaient pas des résidus, elles n'étaient pas annexes, elles n'étaient pas accessoires, elles n'étaient pas marginales, elles constituaient, et c'est un peu l'enjeu du livre, elles constituaient en fait l'élément le plus marquant de l'activité scientifique. Voilà ce que fait un savant toute la journée. Il fait des photocopies, il écrit dessus, il refotocopie, il lit des livres, il annote. C'est ça son activité principale. Alors, c'est assez intéressant de voir, de matérialiser, si vous voulez, l'activité scientifique autour de ces archives qu'on avait justement ignorées ou qu'on avait laissées tomber, parce que dans les fonds d'archives, quand ce n'est ni de l'inédit, ni du manuscrit, ni de la correspondance, c'est dans les divers. Ça fait toujours dans les inventaires archivistiques une partie divers, et c'est la première chose que je demandais à chaque fois, et j'étais sûr de trouver plein de choses très intéressantes pour moi, encore une fois, cette partie divers. Donc c'était ces photocopies, il n'y avait pas d'ordre, apparemment, enfin voilà, il y avait des pochettes, des choses très bizarres, bref. Et donc, au vu de la masse, pour moi il n'y avait qu'un sens, c'était que vraiment on pouvait voir à travers ces archives l'activité savante en train de se faire au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, de pouvoir saisir une pensée parfois extrêmement théorique en train de se construire, mais en même temps la pensée la plus théorique passe toujours par des traces matérielles. Ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Donc ça, c'est peut-être la première chose que permet ce regard ethnologique sur l'archive, alors comme maintenant on me connaît, on me laisse plus faire ça. Quand je vais dans les fonds d'archives incognito, les gens font un peu plus attention, ils ne me laissent pas tout regarder. Bon, c'est un peu plus difficile pour moi maintenant, mais je vous conseille de faire la même chose, de demander le divers, ça peut être drôle. La deuxième chose que permet aussi un regard ethnologique, ou en tout cas si on se met dans cette posture de l'ethnologue qui va découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas auparavant, c'est que en passant encore une fois par ces archives très hétéroclites, très hétérogènes, donc, je vais vous en montrer quelques images tout à l'heure, ça permet d'interroger des gestes, des pratiques, des gestes routiniers, machinaux, que l'on refait quand on fait du savoir, quand on construit du savoir. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces gestes, eh ben, ils se répètent de discipline à discipline. Je peux avoir les mêmes gestes que Benoît, alors que nous ne sommes pas de la même discipline, et pourtant on partage des gestes de l'activité scientifique. C'est assez intéressant. Et je peux les partager aussi avec un mathématicien ou un physicien. Donc il y a quelque chose qui traverse le côté disciplinaire du savoir. Ces gestes donc se répètent, se transforment, évidemment. On ne travaille pas de la même manière en 1920 qu'en 1960 qu'aujourd'hui. Alors ils se transforment à cause des innovations techniques, en grande partie, hein. Je parlais de la xérographie et de la photocopie, ça a été un grand basculement dans l'ordre des savoirs, mais maintenant, effectivement, le numérique propose autre chose du côté des scientifiques, et c'est pour ça qu'il y a une floraison de textes autour de les humanités digitales, les humanités numériques, et comment est-ce que ça reconfigure le rapport au savoir. Donc, mais en même temps, il faut en faire une histoire de ça, et on peut voir qu'à chaque innovation technique, il y a des reconfigurations dans les pratiques de savoir. Et donc ça, c'est très intéressant de voir ces gestes, ces pratiques. Alors je me suis beaucoup demandé en quoi une archive, en quoi un papier, un bout de papier comme ça, reflète une pratique, reflète un geste. Ça a l'air de rien, ça peut paraître de soi. Bah oui, on voit des gestes, il écrit, il a barré, il a utilisé des couleurs. Mais en fait, se poser vraiment la question, est-ce que ça, en quoi ça reflète un geste et quel geste ça reflète, c'est beaucoup plus profond que ça en fait. Et je vais essayer de vous montrer quelques exemples de gestes. Alors c'est des gestes physiques et ordinaires. Tu parlais des bureaux. Travailler à son bureau, ça a l'air de rien, mais il y a des gens qui ne peuvent pas travailler ailleurs qu'à leur bureau. Il y a des gens qui se construisent une ergonomie de travail avec la bibliothèque derrière pour pouvoir, et par exemple les usuels ou les manuels juste derrière. Comme ça, ils ont juste à se retourner, ils ont les dictionnaires à portée de main ou le Becherel pour ceux qui me font des fautes de grammaire comme moi. Ils n'ont même pas besoin de regarder, ils savent qu'il est derrière, ils le prennent. Ouais. Il y a des gens qui se construisent une ergonomie de travail, etc. Donc on croit que c'est très moderne, etc. En même temps, c'est depuis la fin du 19e siècle que l'on incite les universitaires, les chercheurs, les savants, les médecins, etc. à se construire une ergonomie de travail, à avoir un bureau à leur taille, etc. qui est bien agencé. Donc, évidemment, ça a des influences sur votre manière de travailler. La construction d'une ergonomie de travail, classer les livres dans sa bibliothèque. Ça a l'air de rien, mais ça participe de cette ergonomie de travail. Il faut bien que vous retrouviez vos affaires à un moment donné. Vous classez comment, alphabétiquement, par ordre d'arrivée, n'importe comment, par pile. Il y a des gens qui classent par pile. C'est une ergonomie de travail, et donc ça, d'une certaine manière, ça doit se travailler. Quand on fait une recherche sur les archives des chercheurs, il faut prendre ça en considération, parce que vous comprenez évidemment beaucoup mieux comment... vous comprenez beaucoup mieux certaines productions théoriques quand vous replacez ça dans le contexte de production, quand vous arrivez à comprendre pourquoi est-ce qu'il avait le livre à côté, tel livre là, tel manuscrit ici, etc. Donc c'est des gestes qui physiques et ordinaires, hein, se construire un bureau, avoir par exemple des photos, des petits objets, ça a l'air de rien, mais en même temps ça vous permet de penser. Mais c'est aussi des gestes qui sont des vrais savoir-faire. Alors ça, c'est vraiment plutôt le rapport à l'anthropologie, hein, qui nous, depuis les années 80, s'intéresse à ce que l'on appelle les savoir-faire. Qu'est-ce que c'est un savoir-faire, hein, et qu'est-ce que peut être un savoir-faire savant, savoir-faire érudit. Donc vous êtes étudiant, avancé, nous sommes universitaires, on nous a qualifiés comme tels, et nous avons donc des savoir-faire savants. C'est quoi ? On sait prendre des notes, on sait recopier, on sait référencer. On s'est observé, on s'est classé, on s'est catégorisé, on s'est accumulé, on s'est réorganisé. Tout ça, c'est des savoir-faire. Et donc, en même temps, si on travaille sur les savoir-faire du forgeron islandais Intel, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur les savoir-faire de Claude Lévi-Strauss ? C'est ça aussi le regard anthropologique. Et donc, il faut aller jusque-là, d'une certaine manière. Alors, avant d'en arriver peut-être à voir dans les archives ou à voir à partir de ces archives entre guillemets mineures des postures, des manières de faire et d'être, des savoir-faire, des pratiques du travail intellectuel, Ce qui peut être intéressant, et c'est aussi je crois que c'est la conclusion du livre, peut-être rappeler trois règles qui me semblent importantes quand on n'y connaît rien, comme moi, et qu'on veut rentrer dans un fonds d'archives ou qu'on veut travailler avec ou à partir d'archives. Alors là, je me mets du côté du chercheur. Alors, c'est peut-être pas ce qui va vous intéresser, mais je vais venir tout doucement à la question plus professionnelle du rapport que l'on peut et que l'on doit avoir avec ces archives. La première chose, peut-être, c'est idiot, complètement idiot à dire, mais c'est bien d'enfoncer des portes ouvertes. Encore une fois, les universitaires, c'est aussi un de leurs savoir-faire de pouvoir reposer des questions qui semblent tout à fait connues de tous. Mais la première chose à faire, et j'avais sous-estimé ça, et je trouve que c'est vraiment un geste très intéressant, quand on étudie les archives d'un savant, encore une fois, peu importe lesquelles, Lévi-Strauss, Derrida ou Foucault, la première chose qu'il faut faire, avant même de choisir dans l'inventaire ce que l'on veut voir, ce que l'on veut nous amener et ce qui pourrait être intéressant pour nous, c'est de tout lire. Alors, ça paraît encore une fois dire, mais il faut tout lire. Alors c'est évidemment une masse de travail importante, incommensurable, parfois totalement indigeste, mais je crois que c'est important quand on entre dans un fonds d'archives de ne pas faire la distinction ou une distinction a priori entre ce qui pour nous peut nous paraître important et ce qui est accessoire, rationnel ou non, moderne ou non, inachevé ou construit, etc. C'est ce genre d'a priori-là, ça va vous donner une image assez fausse, finalement, de ce que peuvent révéler ces archives. Donc il faut partir de cette idée qu'il faut tout lire. Alors évidemment, c'est un fantasme d'exhaustivité. On ne peut jamais tout lire, mais il faut essayer de s'approcher le plus possible de cette idée que tout, n'importe quel bout de papier, les notes de blanchisserie de Nietzsche, disait Foucault, ça fait partie de l'œuvre de Nietzsche, et il faut le prendre comme tel. Donc, il y a cette première idée qui me semble importante, de tout lire. La deuxième chose que l'on peut faire, et je l'ai fait beaucoup, parce qu'encore une fois, je ne suis pas beaucoup spécialiste de grand-chose, et ce livre le montre, il faut, et je pense que c'est très intéressant de faire ça comme ça, une fois qu'on demande des documents, encore une fois, hein, que ce soit Foucault, Derrida, Lévi-Strauss, et qu'on a tout lu, il faut absolument se dégager de la question des contenus. Ah, ça, c'est un autre exercice mental très intéressant. Se dégager des contenus, c'est se dégager de cette idée qu'il y a des choses qui sont vraies, d'autres qui sont fausses, certaines choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, qu'est-ce que ça peut être, ça peut considérer que certains auteurs ont été centraux à un moment donné et d'autres marginaux. Il faut absolument se dégager, encore une fois, de ce type de catégorisation mentale qu'on arrive à balancer très rapidement en se disant non mais ça c'est pas intéressant, ça il s'est trompé, il a faux ça. Il faut dire que ce qui ne marche pas est aussi important que ce qui a marché. Voilà. Il faut partir de cette idée-là, encore une fois, si on est dans ce rapport anthropologique l'archive, ce qui est intéressant en faisant ça, c'est que ça déplace la focale. Donc en déplaçant la focale, vous voyez apparaître d'autres choses que celles des contenus, que la question des contenus qui est généralement toujours la même question qui est posée soit par les historiens, soit par les sociologues des sciences, qui vont s'intéresser surtout aux contenus. Dernier principe, dernière stratégie par rapport à ces archives de chercheurs, ce qu'il faut essayer de faire quand on est dans l'archive, dans les archives, c'est essayer de d'écrire, parce qu'évidemment vous êtes dans l'archive, vous lisez, puis vous faites votre mémoire de master, votre thèse, votre article. Ce qu'il faut toujours essayer de faire, à mon sens, c'est d'essayer de faire une histoire matérielle des savoirs, même une histoire quasiment matérialiste des savoirs. J'allais dire marxiste, non, mais matérialiste des savoirs, ça me semble très intéressant. Alors, évidemment, tout le monde maintenant dit, et les humanités digitales, à mon avis, c'est leur grande révolution, c'est de dire, il faut faire attention ou il faut prendre en compte la matérialité des documents. Ça, c'est la première chose, mais en même temps, c'est ça, et c'est pas suffisant quand on veut écrire une histoire matérielle ou matérialiste des savoirs. Écrire une histoire matérielle ou matérialiste des savoirs, c'est retrouver derrière le document les corps. Et ça, c'est une manière de faire de l'histoire je trouve qui est extrêmement intéressante et extrêmement en phase avec ces documents de l'activité savante. Qu'est-ce que ça veut dire retrouver les corps derrière les documents? C'est ça, hein, c'est ces gestes que l'on que l'on imagine, mais que l'on ne voit pas quand on me voit écrire ou quand on me voit griffonner dans ma page. Mais c'est retrouver les corps, c'est retrouver les perceptions de ces savants du première moitié du XXe siècle pour moi, parce que c'est la période qui m'intéresse, hein, 1900-1950. C'est retrouver leur imaginaire, c'est retrouver leur quotidien, le quotidien de ces vies savantes. Ben, ces savants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter du pain, ils ont des enfants, ils ont des maladies, ils font la guerre. Voilà, c'est tout ça, retrouver les corps derrière ces bouts de papier. Et c'est plutôt faire, effectivement, ce que l'on dirait, plutôt qu'une histoire matérielle, c'est faire une histoire sociale et culturelle, si vous voulez, des savoirs. Pourquoi ? Parce que ce que nous montrent ces archives, encore une fois, et je vais venir tout de suite aux images, ce que nous montrent ces archives, c'est que, en fait, l'activité savante, elle est tramée par des gestes répétitifs qui sont fatigants, qui sont ennuyeux, qui sont même emmerdants. Il y a des savants, ils font ces gestes-là tout au long du XXe siècle. Il y a des gens, ils font des fiches toute leur vie. Ils passent leur vie à faire des fiches. Parfois même sans savoir pourquoi ils font des fiches, mais parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire des fiches. Et donc toute la journée, ils sont à la bibliothèque, et le moindre livre qui leur passe sous la main, ils font une fiche. Et ils sont là toute la journée à écrire. Il faut s'imaginer, dans une bibliothèque, toute la journée à écrire des fiches. C'est fatigant, ils n'en peuvent plus. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est partir en vacances. Mais en même temps, s'ils partent en vacances, ils n'ont pas accès aux livres. Ils ne peuvent plus travailler. Donc comment est-ce qu'on fait pour emmener les livres avec nous en vacances? Et ça pose des quantités de problèmes. Et je trouve que prendre au sérieux, encore une fois, avec ce regard anthropologique, l'archive, et ces archives personnelles des savants, ça permet de faire émerger ce massif-là qui n'existait pas, ou qui n'était pas vu du tout par les historiens ou par les spécialistes de l'histoire des sciences depuis les années 70 ou les années 80. Alors, j'en arrive peut-être à quelque chose qui serait plus en phase avec ce que vous allez faire plus tard dans votre vie. Peut-être allez-vous travailler près d'archives, ou à proximité de gens qui, eux, travaillent près des archives, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose qui va se jouer là autour des archives. Je pense que, au final, ce qui est important, c'est d'avoir et d'entrer dans une certaine familiarité avec ces documents, des documents qui peuvent être, encore une fois, de nature très diverse, et qu'il ne faut jamais sous-estimer cette histoire de la familiarité. C'est assez intéressant de développer une familiarité avec des objets comme les archives. Pourquoi cette familiarité? Pourquoi je pense que c'est important d'avoir cette familiarité avec les archives? Et donc, peut-être pas rester sa journée dans un fond d'archives, mais prendre le temps de regarder les archives. La première chose, à mon avis, qui est importante quand on a une certaine familiarité avec ces documents, et je suis devenu familier, non pas spécialiste, mais familier avec ces archives, la première chose que je vois et qui m'étonne toujours, c'est que cette familiarité me permet de souligner à quel point les séparations administratives, qui sont celles des inventaires, que les archivistes font à longueur de journée quand la dame arrive avec les archives de son arrière-grand-père qui était professeur de mathématiques à Lyon 3, je ne sais pas, peu importe, j'invente, elle va, à partir de ces sacs dans lesquels il y a plein de documents, elle va partir d'un plan de classement, d'un inventaire, et puis elle va séparer les archives. Et donc ma familiarité avec ces archives, elle me fait voir à quel point ces plans de classement, ces inventaires sont fictifs. Alors ça a l'air de rien de dire ça, mais en même temps c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors il ne s'agit pas de dire le métier des archivistes, ils n'y comprennent rien et il vaut mieux qu'ils ne touchent pas aux archives, parce que sinon ça serait vraiment, c'est la catastrophe à chaque fois. Donc c'est pas dans ce sens-là que vous devez prendre ma phrase, mais c'est plutôt de dire il existe des inventaires et c'est bien, enfin il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut questionner aussi ces inventaires, il faut aussi questionner la manière dont on en arrive à ces inventaires. Et ça, c'est le travail, si vous voulez, de l'universitaire, c'est de ne jamais prendre pour acquis quelque chose qu'on lui amène. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'aller dans un fonds d'archives, de demander des archives. Donc vous demandez, hein, tout est informatisé maintenant, vous n'avez plus de rapport à l'archive. C'est-à-dire quelqu'un vous ramène un carton ou une pochette dans laquelle il y a le seul et unique document que vous avez demandé, rien d'autre, propre, c'est nettoyé. Parfois, on vous donne des gants blancs pour ne pas le salir. Enfin, c'est complètement aseptisé le rapport que vous avez à l'archive. Donc il faut, d'une certaine manière, remettre de l'irrégularité dans tout ça. Parce que sinon, on perd le rapport à ces documents. Voilà, donc cette idée que ne jamais prendre pour acquis ces inventaires ou ces plans de classement, aussi utiles qu'ils soient, évidemment, il ne s'agit pas de dire que, encore une fois, qu'ils amènent plutôt du désordre que de l'ordre, mais en même temps, il faut toujours se questionner sur ces inventaires. Donc ça, c'est le premier effet, à mon avis, la première chose positive d'être en familiarité avec ces documents. Le deuxième effet de la familiarité que l'on peut avoir avec ces documents d'archives, mais c'est totalement lié avec ce que je viens de vous dire, c'est de comprendre à quel point il y a un lien important entre la manière dont on range, dont on conserve, dont on dispose des documents d'archives et dont on vous les présente, quand vous venez demander une correspondance par exemple, et la manière dont ensuite vous les mettez en scène dans un récit qui soit de type historique, sociologique, biographique. Et évidemment, les deux gestes sont liés, les deux choses sont liées. Et donc, mais ça, il n'y a rien de nouveau, et le livre se finit sur ça, mais il n'y a rien de nouveau dans ce que j'ai dit là, dans ce livre, c'est qu'il faut évidemment penser à articuler toujours, de manière nécessaire, ce que fait le professionnel de l'archive, celui qui va conserver, patrimonialiser ces documents, et ce que va faire avec le professionnel de l'écrit, c'est-à-dire l'historien, le sociologue ou le biographe. Mais ça, déjà, Marc Bloch, Lucien Febvre le disait dans les années 20, ça a été redit dans les années 60 avec l'école des annales, ça ne cesse d'être dit. Et donc il faut je suis toujours très étonné de voir que ces belles paroles sont toujours restées sans réelle matérialisation. Il est toujours extrêmement difficile, par exemple, quand vous êtes aux Archives nationales ou à la Bibliothèque nationale, de voir travailler de concert un archiviste et un spécialiste de la personne, du fond, de la discipline. Les choses sont encore totalement compartimentées. Il y a une seule institution qui a tenté de jouer le jeu des chercheurs associés, qui s'appelle l'IMEC, l'Institut Mémoire des Éditions Contemporaines. On lui en a beaucoup voulu pour ça, par ailleurs. Mais c'est vrai que c'est toujours très intéressant de mettre un chercheur en face d'un archiviste pour essayer de travailler dans une espèce de miroir, quoi, de voir ce qui peut être fait, est-ce qu'on peut pas prendre un peu plus de distance par rapport au plan de classement classique, etc., etc. Donc ça, je trouve que c'est des choses qu'il faut essayer de multiplier aujourd'hui, et peut-être qu'effectivement, encore une fois, les humanités digitales vont permettre ça. Alors je vois le temps qui passe. Oui, et donc je vais essayer d'aller assez vite. Je vais essayer simplement de vous donner quelques exemples maintenant, trois exemples de ces archives mineures ou difficiles à traiter pour deux raisons essentielles. La première, c'est que ces archives, celles dont je vais parler tout de suite, elles sont souvent difficiles d'accès. Alors, évidemment, je vous ai dit, il existe toujours des inventaires, mais souvent, les inventaires, comme dans tous les inventaires, il y a des trous, il y a des choses qui n'apparaissent pas. Parfois, c'est intéressant quand même de demander toujours à l'archiviste, mais vous êtes sûr qu'il ne reste pas un carton avec des choses? Et généralement, toujours, on vous dit, oui, mais ça, on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est ça, difficile d'accès, c'est qu'il faut toujours penser à poser la question à la mémoire de l'institution qui est l'archiviste en disant, mais vous êtes sûr qu'il ne reste pas quelque chose qui n'a pas été inventorié? Difficile d'accès, ou alors, c'est l'un des cas que je voudrais évoquer avec vous, ce sont des archives qui sont difficiles à manipuler. Difficiles à manipuler vu leur nombre, vu leur quantité. Par exemple, un fichier bibliographique ou un fichier thématique, c'est parfois un meuble entier. Et donc évidemment, quand vous allez dans un fonds d'archives, vous ne pouvez pas demander le meuble. Souvent, le meuble a été jeté, d'ailleurs. Donc vous n'avez que les casiers, mais on ne peut pas vous donner accès à 20 000 fiches d'un coup. C'est impossible. Alors, parfois, on y arrive, mais c'est très compliqué. Mais souvent, on vous sort paquet par paquet. Donc allez comprendre l'architecture globale du fichier. Après, quand vous avez 5 fiches par 5 fiches, ça devient extrêmement difficile. Alors, le premier exemple que je voulais évoquer avec vous, mais peut-être que je peux le mettre en... Ouais, en plein. Premier exemple, c'est un brouillon. La catégorie du brouillon, c'est une catégorie qui existe, hein, qui a son existence juridique, le brouillon, dans les plans de classement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le brouillon, ça peut valoir pour une feuille, une seule feuille, ça c'est un brouillon, c'est une feuille. Ça peut valoir pour la première version d'un texte, par exemple mon texte, dans le meilleur des cas, si jamais il y a un fonds d'archives à mon nom, ça c'est un brouillon. Mais vous voyez que c'est plus tout à fait une feuille, c'est déjà autre chose. Et ça peut valoir sinon aussi pour plusieurs dizaines ou plusieurs milliers de feuilles. Voilà, ça c'est un autre brouillon. Vous voyez, il n'a pas tout à fait le même. C'est à la fois morphologiquement c'est presque pareil, puis à la fois c'est très différent quand on regarde plus attentivement. Puis après ça aussi c'est du brouillon. Vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Donc cette catégorie. Alors c'est pas une photomontage, mais en fait il faut. Ces quatre tas, c'est moi qui les ai créés. En fait, c'est une pile. Voilà, ces quatre tas former une pile, très épaisse d'ailleurs. Pour la photo, je les ai répartis. Mais parce que je voulais voir, ce qui est très intéressant aussi, je voulais voir les deux côtés des feuilles. Et donc, on se rend compte que ces savants, ça c'est un linguiste de la première moitié du XXe siècle, écrivent sur tout et n'importe quoi. Il y a quelque chose sur le support du papier qui est utilisé qui est assez intéressant. Voilà, grande. Matinée enfantine, donc ça devait être certainement de ses enfants, puis en même temps il écrit, il récupère des textes publiés, des siens, il découpe au format et il tourne la feuille et puis il en fait un brouillon pour un autre article, donc une espèce de récupération récurrente de ces savants qui est très intéressante, hein. Il bouffe du papier à l'état pur, enfin c'est très intéressant de voir ce qu'il y a derrière et ce qu'ils utilisent. Alors cette catégorie du brouillon, hein, vous voyez, c'est souvent illisible. Enfin, voilà, là ça va, c'est encore correct, mais c'est parfois totalement illisible. Donc encore une fois, on peut pas s'intéresser au contenu. Personne n'a jamais regardé ça. Personne ne s'est jamais intéressé à ces brouillons-là. Enfin, on sait que ça existe, mais qui va passer sa vie à transcrire ces brouillons? Personne. Ce qui me fait dire, pourquoi est-ce qu'on garde ça? Ça peut être une question qu'on peut se poser. Au final, pourquoi est-ce qu'on garde ça? C'est vrai, mais encore une fois, je fais beaucoup de mauvais esprits, mais c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on garde ça? Je ne sais pas. Moi je le sais parce que j'arrive à trouver un intérêt au fait qu'on garde ça. Mais pourquoi est-ce qu'on garde ça? Donc le brouillon est illisible, mais en même temps c'est extrêmement intéressant. Le brouillon, il est fait d'hésitation, on voit bien. Hein, c'est Proust, rien à voir avec les sciences sociales, ça, beaucoup plus célèbre. Mais on voit bien, hein, c'est fait d'hésitation, de repentir, de mots barrés, de passages soulignés. Ou indiqué comme devant être déplacé, là vous avez hein, des petits bouts qui doivent être mis, etc. Donc vous avez cette gestuelle-là et ce savoir-faire-là du savant qui apparaît. Alors là j'invente rien, la génétique textuelle depuis les années 80 a fait son fonds de commerce sur l'analyse des brouillons, mais la génétique textuelle s'est intéressée à ces brouillons-là, les brouillons des grands écrivains. C'est un peu différent quand il s'agit d'un texte de Marcel Mauss et d'Henri Huber, dont personne ici n'a entendu parler, enfin j'imagine, peut-être toi, mais les brouillons d'un linguiste qui s'appelle Jacques Vandriès, bon alors là je suis sûr que personne n'a entendu parler, voilà. Donc, mais en même temps, il faudrait, je pense que c'est intéressant, de transférer les techniques de la génétique textuelle vers ces brouillons-là qui existent et qui sont extrêmement nombreux dans les fonds de chercheurs. Mais en même temps, c'est pas ça qui m'intéresse, moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est de voir ça comme étant, et au sens propre, comme au sens figuré, un espèce de millefeuillage de la recherche. Voilà, vous avez vraiment le millefeuillage de la recherche qui se montre, et c'est ça qu'il faut essayer de questionner. Devant ça, évidemment je ne vais pas faire de la transcription, c'est pas ça l'objet, c'est pas ça le but de mon travail. Devant ça, je me pose et ça me permet de me poser un certain nombre de questions dans lesquelles je suis toujours étonné de ne pas trouver d'informations. Par exemple, où est-ce qu'il les a écrits, ces brouillons? Est-ce qu'il les a écrits en bibliothèque, chez lui? C'est pas la même chose. Je n'ai aucune information sur ça. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme ouvrage? Sur quel ouvrage a-t-il travaillé pour faire ces transcriptions? Quelle édition de l'ouvrage? Dans quel but il a écrit ces brouillons? Est-ce que c'est pour faire une conférence? Est-ce que c'est pour faire un cours? Est-ce que c'est pour faire un article, un livre? Donc toutes ces questions-là, on peut se les poser. Il ne s'agit pas d'y répondre. Je ne peux pas répondre à toutes ces questions, mais en même temps, c'est ces questions-là qu'il faut poser à ce type de document pour leur trouver un intérêt, pour leur trouver un sens d'une certaine manière. Mais autre manière d'aborder ces documents, vous voyez, je ne fais pas de la génétique textuelle, autre manière d'aborder ces documents, c'est d'en faire un peu l'histoire, de se dire, c'est quand même bizarre cette histoire de la pile. Est-ce qu'on peut faire une histoire de la pile ? Est-ce qu'il y a une histoire de la pile qui peut être faite ? Je me suis posé cette question et j'ai très vite vu qu'il y a des savants qui, dans leur classement de feuilles, utilisent soit la pile, soit le fichier horizontal. Soit vous avez des piles verticales, soit vous avez des classeurs ou des fichiers horizontaux. Et évidemment, le rapport au savoir qui s'effectue au travers et qui se médiatise au travers soit de la pile, soit du fichier horizontal, est totalement différent. Et on peut faire de ça une histoire parce que le fichier est introduit à la toute fin du 19e siècle dans l'université. Il passe d'abord par l'administration, l'histoire est bien connue, mais il y a comme ça quelque chose qui se passe entre le moment où Henri Behr, qui n'est pas du tout de ma famille, historien, travaille dans son bureau, et ce moment-là. Et c'est 50 ans de distance. 40 ans. 40 ans de distance. Et c'est très étonnant. Alors évidemment, là, je surjoue le montage photographique. Mais en même temps, voilà ce que vous pouvez trouver dans des fonds. Et soit ça peut vous laisser totalement... Ben voilà. Il utilisait des piles, ou il utilisait des casiers, des fiches articulées. En même temps... Quand on essaie de comprendre pourquoi certains continuent à utiliser des piles et pourquoi d'autres utilisent des fichiers, on voit qu'ils ne produisent pas tout à fait la même chose, de la même manière, ils n'ont pas tout à fait un même rapport au savoir, ils ne sont pas tout à fait dans la même discipline, ils ne sont pas tout à fait dans la même génération, etc., etc. Il y a des choses qui apparaissent quand on prend au sérieux cette différence. Ça nécessite donc de faire une histoire du fichier, etc., etc. Bref, je ne vous emmène pas jusque-là, ça serait trop long. Deuxième petit exemple de ces archives qui sont difficiles à manipuler, à manier, et d'ailleurs qu'on ne considère même pas comme des archives, ça va peut-être plus vous intéresser, c'est les bibliothèques. Les bibliothèques de savants, les bibliothèques de chercheurs. Parce que là, il y a du papier, mais en même temps, il suffit d'avancer un peu dans les photographies, puis on voit que de toute façon, ces gens travaillent avec des livres. Ils sont au milieu des livres. Ils ont les livres chez eux. Les bibliothèques, les centres de documentation, c'est 1930, 1940. Avant, c'était vous achetez vos livres, c'est vos livres à vous, c'est pas les livres des bibliothèques publiques. Vous n'allez pas trouver, quand vous êtes anthropologue, vous n'allez pas trouver Claude Lévi-Strauss à la bibliothèque du coin, quoi. C'est-à-dire, vous devez l'acheter. Donc ça, c'est une des nombreuses représentations de bibliothèques d'un historien des religions, sociologue qui s'appelle Robert Hertz. La photo est de mauvaise qualité, mais il y a des sociologues qui ont agrandi, ça c'est les humanités digitales, qui ont agrandi et qui ont regardé, qui ont pu faire l'inventaire des livres qui étaient derrière lui, pour avoir une idée très précise de ce qu'il avait, de ce qu'il pouvait posséder. Celle-là est plus célèbre, hein, c'est celle de Michel Foucault. Alors vous voyez qu'il c'était à la fois un homme de pile et puis un homme de bibliothèque, et c'était pas un homme de fiche, Michel Foucault. Et donc c'est pareil, il y a un projet qui est en cours, hein, qui a consisté à photographier la bibliothèque qui existe toujours dans son appartement, à 30 ans, alors il y a aussi un effet très étrange, il est mort il y a 30 ans, et la bibliothèque n'a pas bougé, personne n'est rentré dans son bureau, qui consiste à faire un inventaire précis de d'où sont placés les livres. Ça, c'est dans cette idée que l'ergonomie du travail savant a un sens. Et savoir où sont placés les Nietzsche par rapport au Marx, ça peut vous dire des choses aussi, du rapport de cet auteur avec ces deux auteurs. Alors pourquoi les bibliothèques, ça me semble être intéressant, parce que justement, il y a eu pendant très longtemps, et c'est encore difficile aujourd'hui, on y revient un peu, mais c'était très difficile pour les archivistes de considérer que les bibliothèques de chercheurs ou les bibliothèques de savants étaient des archives. Hein, il y a toujours eu cette partition, surtout en France, entre les archives d'un côté et les bibliothèques de l'autre, et quand vous arriviez avec un fonds d'archives, par exemple aux archives nationales, c'était oui, on veut bien les papiers, mais par contre les bibliothèques, ça ne nous intéresse pas. Donc par exemple, celle de Dumézil a été vendue. Mais on a les papiers. Et ça a souvent été comme ça. Hein, voilà, ou souvent parce que de toute façon, on considérait que la chose immédiatement commercialisable, c'était les livres. donc les ayants droit, fils, frère, fille, femme, la première chose qu'ils vendaient généralement c'était les livres. Maintenant c'est l'inverse. La première chose qu'on vend, qu'on essaie de vendre, c'est les archives et on garde les livres. Bref, il y a une espèce de retournement aussi dans le rapport à l'archive qui est assez intéressant. Mais évidemment, c'est important, intéressant de considérer aussi que ces livres sont des archives à part entière. Pourquoi ? Parce que ces bibliothèques de savants, elles sont des instruments de travail. Ils travaillent à proximité de ces ouvrages. Elles ont été constituées par les savants eux-mêmes. Ils ont fait le choix d'acheter ces livres-là. Ça veut bien dire quelque chose. Enfin, ça doit donner un sens supplémentaire à la présence de ces livres. Parfois, pour Hertz, ces livres, la majorité de ces livres ont été hérités de son père. Donc il y a aussi des histoires familiales qui viennent se greffer à la question des bibliothèques. Pour celle de Michel Foucault, il y a deux ou trois bibliothèques de Michel Foucault. Il y en a une qui vient d'être vendue, qu'on appelle la bibliothèque des envois. Tous les livres qu'on lui a envoyés avec dessus des dédicaces. À mon cher maître et ami, je vous aime tant, vous êtes l'homme le plus intelligent du monde, etc. Puis on lui envoie ces livres. La bibliothèque a été vendue à Yale il y a 2 ans à la Beinecke pour une somme assez intéressante pour des ouvrages qu'il n'a jamais ouverts par ailleurs. C'est souvent les bibliothèques d'envoi, c'est les bibliothèques qu'on appelle ça la bibliothèque passive parce que c'est pas vous qui choisissez les livres, on vous les envoie, donc il avait remisé ça dans des cartons et puis c'est la première chose qui est partie. En tout cas, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant les envois ? Parce que ça montre aussi à quel point ces savants, ces chercheurs sont à l'intersection de plusieurs réseaux sociaux. Et on voit pour Foucault, il est à l'intersection du nouveau roman, des historiens de l'école des annales, en même temps. Des ministres de la République parce qu'il a eu la première partie de son existence il a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Bah, c'est très étrange de voir dans des livres se manifester comme ça l'entrecroisement d'une vie de chercheur où on voit qu'il est au milieu de réseaux sociaux très différents. Donc ça, il y a quelque chose qui est intéressant et qui mérite d'être analysé. Et évidemment, pour d'autres chercheurs, c'est la présence d'autres types de livres. On peut se dire que chez Michel Foucault, il n'y a que des livres de philosophie. Oui, mais il y a d'autres livres. Il y a évidemment de la littérature. Qu'est-ce que c'est cette présence ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça symbolise, la présence de littérature dans une bibliothèque de philosophie ? Il y a aussi des livres politiques. Bon, il y a Marx, mais en même temps, vous avez des livres de Léon Blum. Vous avez, ça signale quelque chose aussi dans le parcours de vie de ces chercheurs. Mais surtout, et j'en arrive au cœur de la question des bibliothèques, ça manifeste quelque chose de très intéressant, un geste très intéressant, qui est le rapport des chercheurs, des savants, à la lecture. Ils lisent pas comme tout le monde, les chercheurs. En même temps, je dis ça, je suis pas sûr que ça vous... Enfin, pour moi, ils lisent pas comme tout le monde. Ils prennent des notes. Ça a l'air de rien, mais en même temps, ça veut dire qu'ils font autre chose que lire. Hein, ils notent, ils copient, ils recopient parfois. Ils mettent ce que l'on appelle des inserts, ils recopient, puis ils mettent une feuille à l'intérieur de leur livre, puis après ils vont photocopier les livres qu'ils possèdent. Ça aussi c'est une pratique étrange. Vous possédez un livre, en même temps vous écrivez, mais pour ne pas écrire dessus, vous faites une photocopie, puis vous écrivez sur la photocopie. Vous glissez la photocopie dans le livre. C'est assez étrange comme manière de faire. Tu t'y reconnais peut-être dans cette pratique. Mais dans ces gestes de chercheurs, c'est donc annoter, surligner, corner la page, traduire. Parfois, quand les livres sont écrits en anglais, Foucault traduisait directement à côté. C'est pas anodin de traduire directement comme ça à la main. Corriger, déchirer. Il y a des pages qui sont déchirées. Et vous avez comme ça. On voit pas très bien, mais c'est un livre. Qui fait partie de la bibliothèque Marcel Mauss, qui a une histoire très étrange. Je n'y reviens pas. Simplement, on a redécouvert cette bibliothèque Marcel Mauss au Quai Branly, parce que cette bibliothèque est au Quai Branly, mais elle n'a jamais existé en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle a été, dès la création du Quai Branly, elle a été dispatchée à l'intérieur des collections de la bibliothèque. Donc il a fallu faire un travail d'inventaire pour pouvoir... la première fois depuis les années 50 voir les 3 ou 4 000 ouvrages qui appartenaient à Marcel Mauss et qui avaient été complètement disséminés dans la bibliothèque. Et ce qui est très intéressant, vous voyez, il y a une pratique d'annotation. Là, Marcel Mauss, il écrit en fonction de l'ergonomie du livre. Il y a Il y a, comment ça s'appelle, j'oublie le nom, un rabat de pochette, et donc il écrit sur le rabat de la pochette pour pas écrire dans le livre. Donc il y a comme ça des pratiques des savants. Là vous voyez pas, mais c'est donc il souligne. Hein, il est très énervé, Marcel Mauss, de certaines lectures qu'il peut faire, et puis là donc il a mis au crayon de papier Greber, qui est un explorateur un peu cubéni sur les bords, qui va en Afrique, et il met Greber triste crétin. Donc donc c'est vraiment, alors ça a l'air, c'est toujours très très drôle de tomber sur ce type de choses, mais ça signifie quelque chose, et ça signifie le fait que lire un livre en tant que savant, en tant que chercheur, c'est faire plus que lire à chaque fois. Et donc c'est ce petit plus qui est intéressant. Là c'est ces fameux inserts. Malheureusement, tous les livres, souvent de cette génération-là, ces livres ont été nettoyés par des bibliothécaires trop zélés. Donc tous les inserts ont été jetés parce qu'on considérait que ce n'était pas intéressant. Et puis surtout, le livre devait trouver sa place au milieu déjà des collections existantes. Donc on ne pouvait pas laisser à l'intérieur du livre des traces d'écriture. Donc soit on gommait, et donc vous avez des traces dans les livres de Mauss où ça a été gommé complètement. Et c'est vraiment le travail des petites mains qui ont inventorié les livres qui, en même temps, le nettoyer. Et là, c'est un des rares inserts qui reste, hein, un livre, obscur livre d'un folkloriste qui s'appelle Max Müller, qui fait une espèce de fausse comparaison entre un rituel indien et puis les crêpes du Mardi Gras. Et, bon, bref. Et donc, vous avez, voilà, ridicule comparaison. Voilà, il y a quelque chose, il prend la peine d'écrire et de laisser un bout de papier au milieu de son livre. Et encore une fois, ce geste-là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que le livre est transformé, d'une certaine manière, par la lecture de Marcel Mauss. Ce n'est pas le même livre. Ce n'est pas exactement le même livre que celui que voulait son auteur. C'est autre chose. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant de voir, effectivement, ces livres augmentés, parfois beaucoup, par ces annotations, ces inserts, ces citations que les auteurs ajoutent. Alors évidemment, ça pose des problèmes d'introduire et de voir ces livres ou ces bibliothèques comme des archives. Ben voilà, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à les disséminer dans des collections existantes, ou est-ce qu'on fait comme ce que l'on a fait pour les bibliothèques d'écrivains, on fait des petits mausolées ? On fait des petites salles, avec dans chaque petite salle les livres d'un tel, puis les livres d'un tel. Puis est-ce que ça a un sens de faire ça? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Si on considère que c'est des archives, ou si on veut les considérer comme des archives de plein droit, il faudrait peut-être en arriver jusque-là. Est-ce que je peux prendre encore 3 minutes? Non. Je laisse tomber ça. Voilà, dernier exemple, le fichier. Hein, je vous ai dit, hein, comme autre catégorie d'archives extrêmement difficile, voilà un fichier. Quelqu'un qui a passé sa vie à faire des fiches. C'est une salle entière. C'est une salle entière de fiches. Et on a conservé, alors évidemment, encore une fois, qui fait beaucoup de mauvais esprit, pourquoi est-ce qu'on conserve ça ? Je ne sais pas. Vu que personne ne peut y avoir accès, c'est dans une salle fermée, pourquoi est-ce qu'on conserve ces fiches ? Alors évidemment, c'est parce qu'il faut trouver, il y a un intérêt à conserver ces fiches. Ça nous apprend plein de choses, encore une fois, sur ces gestes savants, sur ces savoir-faire que l'on retrouve. En tout cas, il y a, ça c'est Benjamin, il y a évidemment comme ça des auteurs qui pensent par fiches. Barthes est sans doute celui dont on connaît le mieux son rapport aux fiches, mais il y a comme ça, il faut bien se rendre compte que Barthes n'est pas un apax, comme on dit, hein. Tous les auteurs de sa génération, 90% travaillés par fiches. Malheureusement, soit elles n'ont pas été gardées, soit elles ont été disséminées, soit on ne comprend plus la logique du fichier parce qu'elles ont été enlevées des casiers, mélangées, etc. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, et c'est pour ça que cette histoire, il faut tenter de la mener, hein, cette histoire matérielle des savoirs, parce qu'il faut arriver à partir des documents du peu de documents qu'il nous reste, réussir à recomposer ce moment tout à fait intéressant. Où on voit très clairement ce que produit une innovation technique, hein. Le fait d'avoir des fiches perforées ou articulées, qu'est-ce que ça produit dans le savoir ? Ça permet de faire de la comparaison. Ça a l'air de rien, mais en même temps, toute la première moitié du XXe siècle, c'est des sciences comparatives. Donc s'il n'y avait pas de fichiers, on n'aurait pas pu faire de la comparaison. Donc, voilà parfois jusqu'où on peut aller dans l'impact. Notre fichier où vous avez... à la fois un classement alphabétique et un classement géographique, puis derrière un classement thématique. Donc vous avez les mêmes fiches qui sont classées de trois manières différentes. Alors, vous vous rendez compte le temps phénoménal passé à faire ça. Autre image, ça c'est un savant fou, enfin, c'est comme ça qu'on pourrait le catégoriser, c'est 1200 classeurs thématiques. Donc vous imaginez, je crois que c'est un mur qui est grand comme cet amphithéâtre, rempli de classeurs thématiques, d'un type qui a passé sa vie, 50 ans de sa vie, à tout recueillir sur le folklore suisse. 1200 classeurs thématiques, c'est absolument, et c'est aussi haut que ça, c'est démentiel, évidemment personne ne sait quoi en faire. C'est-à-dire, on peut, encore une fois, ma question, hein, il ne s'agit pas de tout brûler, évidemment que non, mais il s'agit de poser les bonnes questions à ces archives. Pourquoi ? Parce que vous pouvez pas faire de la génétique textuelle avec ça. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est pas possible. C'est pas un manuscrit, c'est pas une correspondance. C'est des données. C'est des données de recherche potentiellement réutilisables. Mais en même temps, si vous n'arrivez pas à questionner ça, quel sens ça a de le garder comme ça ? Voilà. Alors, j'arrête là. Vous allez certainement me poser des questions. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que ces archives de chercheurs, ces archives personnelles et plus particulièrement ces catégories d'archives, elles nous montrent toujours que la pensée, ce que l'on appelle la pensée, ce n'est jamais une chose abstraite, très loin de là, et qu'il faut toujours en revenir aux conditions matérielles de production du savoir, conditions matérielles qui nous sont montrées par ces archives-là, justement. Donc c'est pour ça qu'elles sont aussi centrales et aussi importantes, je pense. La deuxième chose que ça montre, j'en ai pas parler, mais en même temps, ce que l'on appelle la pensée, le savoir, le savoir, c'est pas quelque chose de continu comme ça. C'est fait de bribes, de fragments, de morceaux, d'autoroutes, d'impasses, de petites pistes en terre qui sont suivies ou abandonnées, des chemins qui souvent mènent nulle part. Mais encore une fois, ce qui est très intéressant dans ces archives, quand on se dégage de la question des contenus, c'est que même si ça ne mène nulle part, ou en tout cas ce nulle part, j'en arrive vraiment à la fin, ce nulle part est tout aussi important que ce qui a fonctionné et ce qui a réussi. Et donc ça, c'est aussi intéressant à la fois de se dire que on peut tomber sur des choses qui n'ont pas marché. Par exemple, ça n'a rien donné. Ce monsieur, Georges Amoudru, personne ne le connaît, donc déjà c'est la preuve que ça n'a pas fonctionné. Mais surtout, il n'a jamais rien écrit de ça. Il n'a jamais rien écrit à partir de ça. Donc, mais en même temps, vous voyez bien, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire que de se dire que ça ne sert à rien parce qu'il n'a rien écrit, parce qu'il n'a rien pu faire. En même temps, c'est incontournable quand vous travaillez aujourd'hui sur l'anthropologie de la Suisse. Si vous n'allez pas là, vous n'avez rien. Vous êtes obligé de construire vos données alors que là, vous avez tout qui est fait. Encore faut-il savoir l'interroger. Voilà, je m'arrête. Merci. Excusez-moi, j'ai été trop long. J'ai dépassé le temps.
Merci beaucoup pour cette présentation passionnée et passionnante. J'ai une petite liste de questions, parce que moi je fais des listes de choses à faire, des listes de listes à faire, des choses comme ça. Donc, voilà. Je fais plutôt des listes. Mais là, vous avez évidemment la parole.
Oui. Je voudrais simplement parler, vous avez parlé des objets qui appartiennent aux chercheurs, vous n'avez pas parlé des objets qu'ils se sont appropriés, qui ne leur appartenaient pas. Les livres des bibliothèques, qu'ils ont récupérés dans les différentes bibliothèques, ramenés dans leur bureau et conservés bien précieusement, qui quelquefois nous reviennent dans les bibliothèques par les héritiers justement, et que doit-on faire ? Conserver parce que effectivement ça a une valeur d'archive. C'est quelque chose qui correspondait à une façon de fonctionner, de faire. Mais d'un autre côté, ces livres appartiennent à d'autres bibliothèques et on doit les rendre.
C'est une bonne question. Je ne sais pas très bien quoi faire. Moi, enfin, voler des livres, est-ce que c'est un geste aussi terrible que ça ?
C'est pas vraiment un vol.
non, mais je veux dire, non, mais je comprends bien, mais en même temps, je sais pas moi, si les livres sont annotés, c'est une archive pour moi. dans, voilà, ça donne une valeur supplémentaire à cet ouvrage. Et il a une valeur supplémentaire aussi parce qu'il est pris dans le tout de la bibliothèque. Donc il ne faut pas démembrer la bibliothèque. En tout cas, on peut la démembrer, mais encore faut-il garder la trace que dans cette bibliothèque, il y avait ce livre-là. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, le problème, c'est que tout ce que je vous présente, d'une certaine manière, ça demande un effort de reconstruction extrêmement important, parce que ces données-là, elles sont dispersées, et que généralement, plus personne ne sait comment le fonds a été construit, par qui il a été donné, qu'est-ce qu'il y avait dedans exactement, etc. etc. Donc, c'est tout ce travail-là qu'il faut mener en fonction des archives. Pour les bibliothèques, l'exemple de la bibliothèque de Marcel Mauss, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire, on a écrit deux biographies sur cet auteur, les biographes sont toujours passés à côté de la bibliothèque, parce que ils n'ont jamais interrogé dans l'inventaire du musée de l'homme, qui est devenu après le musée du Quai Branly, l'entrée provenance. Donc voilà, on peut passer à côté de choses absolument énormes, parce que voilà, soit on ne sait pas, soit parce qu'on n'a pas les outils techniques, soit parce que voilà. Donc il faut surtout, moi, ce qui m'intéresse dans l'archive des chercheurs, c'est qu'elle me fait me poser des questions. Alors, tout ça pour me dédouaner du fait que je ne vais pas vous répondre. Mais me faire poser des questions, c'est formidable. Voilà, encore une fois, c'est le travail de l'universitaire que de se poser des questions. Après, y répondre, c'est plus compliqué. Mais j'ai un exemple comme vous, exactement dans le même sens que vous, hein, Michel Foucault. La seule trace de Michel Foucault comme lecteur à l'école normale supérieure, c'est les livres qu'il avait volés et qu'il n'a jamais rendus. C'est la seule trace de lecteur. Et d'ailleurs, ils ont... En trouvant, parce qu'on leur avait posé la question, vous avez des traces de Michel Foucault comme lecteur, hein, ils ont commencé à regarder dans leur dossier, ils sont tombés sur les fiches qu'ils envoyaient aux lecteurs après 3 semaines ou 1 mois quand les livres ne revenaient pas, et donc ils sont tombés sur les talons en fait de ces fiches-là, et donc ils ont demandé à la famille de rétrocéder les ouvrages que Foucault avait empruntés dans les années 50. Je trouvais ça assez joli. Voilà. Mais non, je sais pas quoi vous répondre, mais en même temps, non, ce qui est important, encore une fois, c'est de c'est de garder une trace de la présence de ce livre dans la bibliothèque, mais plus encore, je pense que vraiment le travail qu'il faut mener, c'est un travail de mise en lien. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il existe une bibliothèque, mais la bibliothèque, souvent, elle est liée avec des fichiers, qui souvent sont liés avec des brouillons, qui souvent sont liés avec des catalogues, qui souvent sont liés... Donc, en fait, encore une fois, les inventaires ont tendance à... Les inventaires, les plans de classement d'archives ont tendance à faire exploser ces liens. Et donc, tout le travail qu'il faut mener, c'est de relier tout ça. C'est très long, mais en même temps, c'est ça qui donne l'intérêt de ces archives.
Non, attendez le micro, parce que c'est enregistré. Et si on a une réponse intéressante, mais pas la question, c'est embêtant. Alors, pour les fonds qui ne sont pas dépouillés, par exemple...
Laissez-les, pas dépouillés.
Oui, mais quand on nous demande de travailler dessus, il y a quand même un gros souci, parce qu'ils ne sont pas dépouillés, ils ne sont pas indexés. Se pose la question de comment utiliser la source, comment utiliser la ressource. Vous avez a priori travaillé sur les fonds présents dans cette bibliothèque.
Oui.
Et par exemple, nous avons un sujet d'étude sur la bibliothèque, enfin plutôt sur le thème de l'ADLP, donc l'Association pour le Développement de la Lecture. Et quand on a sorti les premiers cartons, moi la première question que je me suis posée, c'est mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir utiliser là-dedans? Voilà.
Ouais.
C'est-à-dire
oui,
que
ben,
du fait
sûr.
Que rien ne soit pas, que rien ne soit réellement indexé, clairement indexé, c'est... Vous posez la question de ne pas toucher à ces archives-là pour pas brouiller, vous, votre travail d'anthropologue, mais après, comment on gère la ressource?
Non, mais évidemment, encore une fois, il s'agit de ne pas vous bloquer dans votre travail d'indexation d'inventaire. Faites votre travail d'inventaire, c'est, évidemment. Moi je suis dans la posture de l'historien ou du chercheur pour qui... un rapport le plus direct à la source, plus le rapport est direct à la source, mieux c'est, d'une certaine manière. C'est-à-dire, moins il y a de frontières ou de barrières entre moi et le document, que ce soit des inventaires, des plans de classement, etc., plus je trouve un intérêt au document. Mais en même temps, ça, c'est ma posture de chercheur. Votre travail d'inventaire et d'indexation, il doit être fait. il doit être fait. C'est à moi, à partir de ce que vous avez fait, de pouvoir questionner le document et de pouvoir lui trouver un sens ou un intérêt ou pas d'intérêt. Mais en tout cas, il ne s'agit pas de vous bloquer dans ce travail-là. Il faut le mener, il faut le faire. C'est la base. Il y a quelques textes qui existent de chercheurs qui ont fait des inventaires de fonds d'archives de chercheurs ou de savants et qui sont toujours tombés devant ce problème-là en disant mais c'est pas adapté, les plans de classement qui existent pour des fonds d'archives, c'est pas adapté aux chercheurs. Mais on le sait depuis 30 ans, mais en même temps, c'est comme ça, il faut le faire. Il y a une belle expression que j'ai réutilisée dans mon livre de François Matron qui a fait l'inventaire du fonds Althusser et qui disait c'est un type à part. Et il avait appelé son inventaire l'inventaire du type à part. Parce qu'évidemment, ça n'y a rien de collé. Rien de collé parce que la correspondance qui était privée, en même temps, il y avait du public et en même temps, il y avait du scientifique. Donc où est-ce qu'on la mettait? Et la correspondance, par exemple, comment est-ce qu'on la classe, la correspondance? On la classe alphabétiquement? On la classe chronologiquement? Sachant que parfois, les chercheurs ont aussi leur mode de classement de la correspondance. Souvent, très souvent d'ailleurs, la correspondance, elle est classée par ces savants par ordre d'arrivée. C'est-à-dire, c'est souvent des réactions à des publications d'articles ou de livres. Donc, ils ont le dossier éditorial, ils ont généralement le brouillon de l'article qu'ils ont publié, et puis à la suite de ça, viennent les lettres qui ont été suscitées par la lecture de ce texte ou par la lecture de cet article. Donc, la grande question, c'est qu'est-ce que vous faites avec ce dossier-là? Quand vous êtes archiviste, vous le faites exploser, et la logique voudrait qu'on l'explose, c'est-à-dire qu'on mette le brouillon dans la catégorie brouillon, la correspondance dans la catégorie correspondance, mais après, vous voyez bien la perte d'informations immense que ça provoque. Bon, ça, c'est l'exemple extrême. Ça se fait de moins en moins maintenant. Mais pendant très longtemps, c'était la norme. Et l'IMEC a été une des premières institutions à s'élever contre cette manière de faire parce que justement eux ils voulaient essayer de récupérer du lien et en se dégageant de la question des contenus, en se disant on s'en fout de ce qui est marqué dedans, c'est pas ça qui est intéressant, c'est de savoir que cette lettre elle est à côté de cet article, ça c'est vachement intéressant, ou que dans la revue c'est pas tant ce qui est écrit dans l'article qui est intéressant, mais c'est de savoir que cet auteur dans cette revue il a publié avant un tel ou après un tel, ou il a publié avec un tel, et là on peut reconstituer des liens parce qu'on voit que les noms avec lesquels il a publié, ben, il a une correspondance avec. Ça donne des liens et ça donne de l'intérêt à ces documents. Donc voilà, il y a des petites un savoir-faire qu'on peut avoir avec ces documents. Alors je sais que parfois on a tendance à, c'est tellement le foutoir qu'on se dit non mais de toute façon là on reprend tout depuis le début. De toute façon il n'y a pas d'ordre. Mais en fait, il faut toujours se méfier parce qu'il y a souvent un malgré les multiples manipulations de ces archives, il y a souvent un ordre quand même malgré tout. Donc il faut être attentif à ça. Il faut le noter. Moi, la seule précaution que je vous donnerai, c'est notez tout. Prenez un cahier. Vous dites, ce document-là, il était avec lui, mais je l'ai déplacé. Ou celui-ci, je l'ai mis comme ça, je l'ai déplacé. Parce que ça évite de perdre de l'information. Ce type d'information en particulier. Alors il y a des fonds pour lesquels c'est plus facile que d'autres. Évidemment, hein, tout c'est au cas par cas. Mais je trouve que c'est une bonne pratique. Et les humanités digitales, d'une certaine manière, elles permettent de faire ça. Ce qui pose d'autres problèmes, parce que les métadonnées, c'est aussi une espèce d'usine très compliquée. Mais c'est ça, c'est-à-dire essayer de perdre le moins d'informations possible dans les différentes manipulations par lesquelles l'archive va passer. Même la chose la plus insignifiante qui peut vous paraître. Et je réponds pas à votre question. En fait.
Est-ce que c'est important, par exemple, pour vous de faire une chronologie des brouillons? Si vous parliez beaucoup de brouillons, est-ce que souvent ces brouillons ils sont datés, on peut voir une évolution? Est-ce que est-ce que pour vous c'est... Même en étant détaché des contenus, est-ce que c'est un bon indicateur?
Toute indication chronologique, s'il y a des noms, s'il y a des, tout ça, oui, c'est important. Moi, encore une fois, vous voyez bien que je dis, enfin, les brouillons, je les prends, mais pour tout à fait autre chose que pour ce qu'ils sont en réalité. Mais un spécialiste de la génétique textuelle, s'il tombe sur les brouillons et qu'il voit tout ça, il va être forcément passionné. Voilà, moi je vais pas les. Je, 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 je ne lis pas le brouillon comme pourrait le lire un spécialiste de la génétique. C'est-à-dire je ne fais pas de la transcription et je ne m'intéresse pas à savoir entre le premier brouillon et le deuxième brouillon, qu'est-ce qui a changé, quel est le travail qui a été mené sur l'évolution du concept ou de l'hypothèse, comment est-ce qu'ils... Mais ça existe, il y a des gens qui sont spécialistes de ça et qui font ça très très bien. Moi, c'est pas exactement ce que je fais. Ça m'intéresse, c'est une bonne pratique de l'archive, même si ça a tendance parfois à un peu trop, sacraliser le document, un peu trop, je trouve, parce que en fait, on reste beaucoup attaché au document et pas tant aux gestes ou aux pratiques qui ont mené à l'écriture de ce document. On perd un peu l'humain derrière ces documents, c'est-à-dire quand vous avez le texte, enfin l'image du brouillon de Proust. On oublie Proust, quoi. C'est vraiment, il a remplacé un par le, ou enfin c'est vraiment le mot qui devient extrêmement intéressant, important, et donc ça sacralise un peu le texte. C'est l'effet pervers, à mon avis, de la génétique textuelle. Et leur problème, justement, c'est que autant ça marche sur la littérature, autant pour les sciences humaines et sociales ou la philosophie, c'est beaucoup plus difficile. Et ils ont du mal à faire ce passage. Alors il y a des numéros de revues sur l'architecture, etc., sur les linguistes, ils ont travaillé sur les linguistes dernièrement, donc ils essaient d'entrer dans cette question de l'archive des sciences humaines et sociales, mais en même temps ça leur pose des problèmes dans leur propre méthodologie pour appréhender le document.
Et j'ai juste une dernière question et après je passe le micro, promis. Vous parlez beaucoup des familles qui vous déposent des archives, enfin qui déposent des
Moi,
archives.
Moi, personne ne me dépose rien.
Mais les familles déposent des archives aux bibliothèques. Est-ce qu'on a le cas de beaucoup de chercheurs qui prennent le temps, l'âge venant, de trier, de...
Voilà. Non, mais ils brûlent généralement. Non, c'est très compliqué parce que justement, la loi voudrait que... moi, en tant qu'enseignant à Lausanne, je remette à ma retraite, si je suis encore à Lausanne, l'ensemble de mes documents à l'université de Lausanne. C'est l'université. Et en France, c'est pareil, c'est-à-dire toute l'activité publique que vous avez au sein des universités pour les chercheurs doit retourner et il doit y avoir normalement un service d'archives dans votre université qui doit s'occuper de ça. Mais évidemment, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, il n'y a pas de place, etc. Donc il y a des difficultés financières très importantes par rapport à ces questions-là. Il y a quelques universités qui ont joué le jeu. Il y a Toulouse. Ils ont associé l'archiviste avec les sociologues et puis ils font un peu de recherche-action, c'est-à-dire qu'en fait ils vont regarder qui va partir à la retraite dans 6 mois, puis ils l'accompagnent, alors non pas avec une béquille, mais ils l'accompagnent pour faire ses cartons et puis pour d'une certaine manière pour essayer de lui rappeler que ces papiers doivent aussi retourner du côté de l'université, etc. Donc mais c'est très long et ils peuvent le faire que sur 1, 2, 3 personnes à chaque fois parce que c'est trop compliqué. C'est souvent l'occasion des déménagements d'institutions que les choses se voient. Le déménagement de l'école des hautes études a été l'occasion, pour le coup, de mettre en carton, enfin de sceller les bureaux. C'est-à-dire les gens sortaient des bureaux, les bureaux étaient fermés et puis c'est une entreprise avec l'aide de l'archiviste de l'école des hautes études qui a mis en carton les documents. Ce qui a évité aux gens de partir avec les documents pour plus qu'on les retrouve. Mais par exemple, les gens sont partis avec les disques durs, donc les courriers informatiques, tout ça. Bah, en même temps, c'est ça le problème. C'est-à-dire maintenant, votre activité, elle est numérique. Donc qu'est-ce qu'on met en place pour que, évidemment, vous ne partiez pas avec votre disque dur quand vous partez à la retraite. Ça pose d'autres problèmes parce qu'évidemment, on ne sait pas comment conserver ça. Il n'y a pas de place, il n'y a pas les moyens, il faudrait dupliquer tout ça, etc. Et ça, pour le moment, c'est un vrai trou noir. Tant que c'était du papier, c'était encore possible. Maintenant que c'est sur du numérique, ça devient très compliqué. Enfin, ça demande des moyens que certaines universités n'ont pas. Voilà.
Surtout que je pense que les services informatiques qui récupèrent les machines n'ont pas une sensibilité extrêmement forte à la...
C'est un autre problème. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a le rapport entre les chercheurs et les archivistes, mais il y a un troisième personnage, les informaticiens, qui sont devenus centraux maintenant, et avec lequel il est extrêmement difficile d'avoir un langage commun. Non pas que c'est parce qu'ils refusent, c'est parce qu'en fait ils n'ont effectivement pas du tout de sensibilité envers ces questions-là, donc c'est très difficile de les... Moi j'ai monté plusieurs projets de mise en ligne d'archives avec eux, et c'est extrêmement difficile. Non pas parce qu'on est sur des idées opposées, mais parce qu'on n'arrive pas à avoir un langage commun. Voilà, ce que je dis moi, il le comprend autrement, et donc on ne se comprend pas... On a fait une opération sur Foucault, il a sur 3 ans de recherche, il a fallu 2 ans pour mettre en place une communication entre nous. C'était très très long. En même temps très intéressant, mais voilà, ça signifie bien que cet acteur devenu central dans l'archivage, ben, nous ne sommes pas formés pour leur parler, eux ne sont pas formés pour nous parler. Il y a quelque chose là qui est important. Oui.
Bonsoir. Une des choses que je trouve très intéressante dans ces archives que vous avez qualifiées vous-même de mineures, c'est qu'elles traduisent des méthodes de travail intellectuel, et en particulier les fichiers. On sent qu'avec le fichier, on passe effectivement à une autre époque et que ça a des conséquences sur le contenu. Et je voulais vous demander quel était le rapport, en règle générale, des savants des différentes époques à ces méthodes de travail intellectuel. Par exemple, est-ce qu'on sait comment ces méthodes se diffusaient, comment ces savants y ont été sensibilisés, et plus généralement, est-ce qu'ils les ont théorisés, est-ce qu'ils y ont réfléchi, est-ce que dans votre travail vous avez pu vous fonder sur des manuels qu'ils auraient écrits à l'usage de leurs étudiants ou des autobiographies? Je pense en particulier au cas de Georges Dumézil, le spécialiste bien connu, qui avait refusé, je me souviens bien, d'écrire son autobiographie intellectuelle par pudeur, parce qu'il voulait enlever l'échafaudage de son œuvre. Est-ce que cette pudeur, les savants l'ont tous, ou est-ce que vous en avez trouvé qui en parlait plus librement?
Merci pour votre question. Là, il y a plein de choses. Évidemment, il y a toute une. Il existe des manuels, évidemment, de méthodes qui exposent, par exemple, pour le cas des fichiers, qui exposent les manières de faire. L'anglo Essaignobos pour l'histoire. Vous avez 10 pages sur comment faire votre fichier. Donc il y a des méthodes, il y a des moyens. On vous enseigne et on enseigne, et surtout dans les années 20. Avec, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est les années 20, parce que c'est évidemment la taylorisation du travail, et en même temps, c'est l'idée de la taylorisation du travail intellectuel qui se met en place. Donc il y a faire des fiches à la chaîne. Il y a quelque chose qui se joue là et qui est très intéressant de voir quand on recontextualise ce moment-là. Mais il y a une référence peut-être que vous devez aller voir d'un livre dont j'ai oublié le titre, mais qui va me revenir. En tout cas, c'est une historienne qui s'appelle Delphine Gardet, G-A-R-D-E-Y, et je crois que son livre qui est paru chez La Découverte s'appelle Écrire, classer et calculer, voilà, écrire, classer, calculer, qui fait l'histoire de cette bureaucratisation du travail intellectuel, avec l'idée que les papetiers, le rôle de l'industrie papetière, par exemple. Évidemment, c'est eux qui font les fiches. Il y a des formats sur les fiches. Quand vous allez travailler, par exemple, en Angleterre, vous n'avez pas le même format de fiche. Donc, vous devez trouver un format qui soit équivalent pour l'Angleterre et pour la France. Donc, il y a toute une espèce comme ça de travail des papetiers pour établir des fiches et des formats de fiches qui soient utilisables en France, à l'étranger, pour que vous ne soyez pas obligé de recopier vos fiches quand vous revenez chez vous pour pouvoir les mettre dans votre meuble à fiches. Donc ça veut dire qu'il y a des meubles à fiches qui sont construits. Et ce qui est très intéressant quand on regarde du côté de l'industrie papetière ou des constructeurs de meubles à fiches, je me suis un tout petit peu intéressé à ça, ça paraît délirant, mais en même temps ça fait partie du job, c'est que vous avez des catalogues, l'un des plus célèbres s'appelle Borgeot qui avait appelé son entreprise l'affiche. C'est comme ça qu'on a trouvé rue des écoles, et Borgeot a produit des meubles et a surtout vendu des meubles dans les bibliothèques. La BNF, c'est lui qui a complètement fourni la BNF dans le mobilier des meubles à fiches, etc. Et ça existe encore, Borgeot est encore une entreprise qui existe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le carnet de commandes de Borgeot, vous avez à chaque fois la commande du meuble à fiches, mais à chaque fois, les savants ont des demandes particulières. Parce que le fichier d'un linguiste ne peut pas aller pour un historien, qui ne peut pas aller pour un anthropologue, qui ne peut pas aller pour un mathématicien, qui ne peut pas aller. Et donc à chaque fois, vous avez des demandes particulières. Il faudrait qu'il soit plus profond, il faudrait qu'il soit plus haut, il faudrait qu'il me permette de faire ça et de faire ça. Donc à chaque fois, et c'est très intéressant de voir qualitativement ce rapport au mobilier, ce rapport au savoir, et ça veut dire qu'effectivement, la question de l'ergonomie du travail savant, elle est très importante pour ces savants, à se constituer un environnement de travail, c'est loin d'être anodin, Et ça me permet de rebondir sur la deuxième partie de votre question. Ils en parlent, évidemment, ils en parlent dans leur correspondance. Ils n'écrivent pas tous des livres pour nous raconter ce qu'il y a derrière la tapisserie, qui est souvent une autre image. Vous parliez d'échafaudage, mais l'autre image généralement qu'on utilise, c'est le derrière de la tapisserie, pour voir un peu comment effectivement il fonctionne. C'est Foucault qui utilisait cette image en disant je ne vous montrerai pas ce qu'il y a derrière la tapisserie, mais derrière la tapisserie, il y a sa bibliothèque, il y a tout ça, quoi. C'est ça. Et donc dans les correspondances, dans les entretiens, il y a parfois effectivement des choses qui émergent. Moi qui ai beaucoup travaillé sur les années 1910-1520, il y a le cas célèbre donc, de Robert Hertz qui a passé sa vie lui à faire des fiches. Alors, toutes ces fiches ont disparu, mais ça l'a tellement marqué psychologiquement, ce travail qui consiste à faire des fiches sans savoir à quoi elles vont servir, parce que c'est ça, hein, qu'il a été lui aussi incapable d'écrire. Ça l'a bloqué complètement, il était totalement bloqué. Et donc ça pose, et c'est ça qui est très intéressant dans cette possible histoire matérialiste des savoirs qu'on doit écrire, c'est que ces innovations techniques, elles vont parfois jusqu'à poser des problèmes psychologiques aux savants, et que c'est tellement facile de faire des fiches. Mais en même temps, ça devient extrêmement compliqué de faire une synthèse de tout ce savoir accumulé. Comment est-ce que vous passez de ce geste routinier qui consiste à, je sais pas quoi, à noter un mot en rapport à votre lecture ou à faire un résumé de livre, comment vous passez de ça à faire une synthèse? Et ça, ce geste-là, en fait, on va voir qu'il devient de plus en plus problématique tout au long de la première moitié du XXe siècle. Donc il y a plein de cas comme ça, où on voit qu'on peut interroger ce rapport au savoir, ce rapport à l'innovation, aux techniques, de manière différente. Donc ça, oui, il y a quelques textes, mais déjà le livre de Gardet vous donnera des éléments très factuels sur le rapport à l'écrit aussi dans les sociétés occidentales à partir de la fin du XIXe siècle, et cette bureaucratisation de l'écrit qui émerge vraiment de manière très grande. Et même Delphine Gardet, je crois, parle un tout petit peu de la féminisation, c'est-à-dire effectivement le rôle de la femme du savant. J'en parle pas, mais il y a des questions de genre qui se jouent. La femme du savant, c'est souvent elle qui recopie ou qui corrige les épreuves ou qui fait le travail qu'on appelle toujours de petite main, mais en même temps sans ce travail là c'est impossible, et en plus elle s'occupe des enfants, etc., etc., etc. Mais quand il s'agit d'aller voir derrière la tapisserie, il s'agit aussi de questionner ça, évidemment, parce que sinon on comprend pas comment ces gens là peuvent écrire autant s'il n'y a pas quelqu'un qui les décharge de tout le quotidien d'une certaine manière. Donc elles ont un rôle extrêmement important à jouer, et ça, il commence à y avoir des recherches sur ces second rôles, enfin voilà, en même temps qu'ils sont très importants, mais qui sont souvent qui n'apparaissent pas dans les archives, ou qui apparaissent de temps en temps. On voit dans les archives une deuxième main, et on se dit mais c'est bizarre, il écrit seul. En fait c'est l'épouse ou la fille qui corrige, qui recorrige, qui réécrit, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre là aussi qu'il faudrait questionner.
Alors j'en profite pour me passer me donner la parole. Pardon, il y avait une question, j'ai
oublié. Oui, il y avait une question.
Bon, après, je vous en prie, allez.
Bonjour. À l'ère du numérique, n'assiste-t-on pas à la disparition des archives de chercheurs? Parce que, par exemple, les brouillons, c'est écrasé par la sauvegarde. Les correspondances, c'est des mails qui, normalement, ne sont pas très conservés.
Alors oui, alors évidemment, c'est vrai que je vais être bientôt au chômage. Non, mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est un vrai problème. On me pose toujours cette question, mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, sur quoi vous allez pouvoir travailler? Ce qui est un vrai problème, c'est-à-dire des historiens dans 50 ans qui vont vouloir travailler sur les manières dont nous travaillons aujourd'hui, vont être très embêtés. Mais en même temps, je dois vous avouer que c'est pas le papier qui donne plus d'informations, parce que tous ces fonds, malgré leur énormité, comme le fonds Amoudrouille avec ses 1200 classeurs, en fait, c'est des fonds qui ne sont jamais complets. Il y a il y a quelque chose aussi qui est très intéressant dans ces fonds, et justement sur lequel les historiens ne disent pas grand-chose, parce que ça touche vraiment à leur métier, mais il faut réussir à vivre avec cette idée qu'un fonds n'est jamais complet, n'est jamais exhaustif, et que donc potentiellement vous pouvez toujours trouver une lettre qui va dire le contraire de ce que vous avez lu 6 mois avant, et qu'on va retrouver dans 6 mois ailleurs, etc. Y a cette idée de l'incomplétude des fonds, et voilà, et donc le numérique va, je pense, va rendre ça encore plus visible. C'est effectivement, on va se retrouver avec un mail de temps en temps, et qu'il va falloir essayer de recontextualiser d'une manière ou d'une autre. En même temps, y a aussi une volonté très claire de sonder maintenant, et de sonder de manière assez exhaustive, 1, 2, 3, 4, 5 chercheurs qui vont devenir, ça c'est une nouvelle orientation des archivistes, c'est-à-dire au lieu de vouloir tout prendre, on va se focaliser sur 1, 2, 3, 4, 5 personnes, et on va essayer là de récupérer tout pour avoir des échantillons qui soient suffisamment parlants. Donc ça, on va vers ça. Je ne dis pas que c'est la solution, mais voilà, on se dit, ça c'est des cas où c'est des gens qui vont, sur lesquels on arrive à glaner un maximum d'informations. L'autre chose, c'est qu'on met en place aussi des outils techniques maintenant pour récupérer quasiment automatiquement et les mails et les versions. L'ITEM, ce groupe de chercheurs qui travaille sur la génétique textuelle, a inventé depuis 15 ans maintenant un logiciel qui automatiquement enregistre les différentes versions. Donc en fait, vous avez les états des brouillons. À chaque fois que vous rouvrez votre dossier, il y a une nouvelle mise en place. Et donc vous pouvez tout à fait faire de la génétique textuelle à partir de votre ordinateur ou de ce que vous écrivez sur votre traitement de texte. Donc alors je ne dis pas que c'est la solution, encore une fois, hein, mais je pense qu'on va effectivement développer des moyens ou des techniques pour pouvoir récupérer quand même des données, et qu'on ne soit pas dans un espèce de trou noir dans 50 ans ou dans un siècle qu'on va vouloir s'intéresser, parce que c'est vraiment intéressant, je ne sais pas, à ce qu'on faisait nous aujourd'hui. Voilà, mais c'est vrai que c'est très balbutiant, d'une certaine manière.
Je crois qu'il y a encore... Et encore une question tout là-haut, Raphaël.
Bonjour. C'était plutôt pour commenter et aller dans le sens que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire avec le numérique. Alors après, je m'appuie sur ma propre manière de faire de la recherche, et je ne dis pas qu'on va s'intéresser à mes archives de chercheurs plus tard. Je ne dis pas ça du tout. Mais... en tout cas, quand j'écris un article, j'ai 8 versions minimum de mon article. J'ai la V1, j'ai la V2, j'ai la V3, j'ai la V4, etc. J'ai en plus parfois des relectures par d'autres gens, donc des commentaires en marge, voire la méthode sous Word, vous savez, où tout est inscrit, genre là, il y a un truc qui a été corrigé, là, il y a un truc, etc., qui garde vraiment la trace de tout ce que j'ai écrit et corrigé. C'est encore plus vrai pour des articles en commun, parce qu'on écrit beaucoup à 2 ou 3, 4... Et donc là, c'est encore pire, on a encore plus de versions, etc. Et on peut même trouver les versions des chercheurs quand ils ont travaillé tout seuls, et ensuite ce qu'on met tous ensemble. Mais encore plus fou que ça, il faudrait que vous visitiez ma bibliothèque numérique. C'est que j'ai des... Moi, je suis... Enfin, Benoît adore les listes, moi j'adore les dossiers. Donc tout est rangé par dossier. J'ai des rangements de ma bibliographie thématique, j'ai des rangements de ma bibliographie par auteur, j'ai des rangements par discipline. Donc je trouve rien, c'est simple. J'ai des rangements de mes revues de littérature... Donc par thématique, mais aussi par discipline, parce que parfois c'est des revues de littérature plutôt du point de vue philosophique, parfois plutôt du point de vue sociologique, etc. J'ai des fiches de lecture. Alors je ne sais jamais si je les range en sociologie par auteur ou en sociologie par thématique. Et alors pour résoudre tout ça, j'utilise Zotero. Donc dans Zotero, je mets mon texte. Quand j'y pense, je mets des mots-clés. J'essaye d'y accrocher le texte original, qui est donc ma bibliothèque. Hein, voilà. Et si j'y pense, que je ne fais jamais, là je me suis notée d'ailleurs faire ça, merci pour votre intervention, et je me suis dit, tiens, il faut absolument que je rajoute dans Zotero, accroché à ma référence, non seulement l'article, mais aussi la fiche de lecture. Parce que sinon, comment je vais m'y retrouver? Donc non, je pense qu'au contraire, avec les outils numériques, on va pouvoir trouver autant d'informations, à condition que les gens soient aussi fous que moi, c'est-à-dire qu'ils fassent des dossiers, ou que d'autres ont leur système, mais il y a de quoi faire... fortement.
Je suis d'accord avec vous. Votre intervention, elle me fait penser au fait qu'effectivement, il y a des rapports à l'archive qui sont très différents et qui sont très personnels. Il y a des gens qui, comme vous, gardent trace, et d'autres qui qui ne gardent pas trace ou qui font tout pour ne pas garder trace. Donc, et ça, ça n'a existé tout le temps. Enfin, voilà, vous avez des cas très célèbres de gens qui, avant leur mort, ont décidé de tout brûler ou ont brûlé une partie de leur œuvre pour en laisser une autre, etc. Il y a un rapport évidemment très personnel à l'archive et au fait et à la conservation de soi. C'est aussi ça qui est en jeu dans l'archive personnelle surtout, hein. C'est-à-dire alors il ne s'agit pas de considérer que effectivement vous visez le Panthéon en gardant tout, mais cette idée de se projeter dans un futur quel qu'il soit et de prendre les devants en se disant voilà je m'archive, s'archiver soi-même, c'est un geste très compliqué. Et on pourrait croire par exemple que les historiens sont plus tournés vers ce geste qui consiste à s'archiver, c'est-à-dire faire bien ses dossiers, etc. En fait, non, c'est un mythe.
On en a un dans la maison.
C'est un mythe. Fèvre, Lucien Fèvre, par exemple, c'était l'horreur absolue, ces archives. Et donc, on voit aussi qu'il y a des rapports personnels à l'archive qui prennent le dessus sur des rapports disciplinaires, d'une certaine manière. En même temps, Lucien Fèvre était un vrai spécialiste des archives, mais ses archives à lui, c'est le bordel le plus total et absolu. Donc, en même temps, ce qui est très intéressant, c'est les mots-clés. Les mots-clés, je ne l'ai pas dit sur les fichiers, mais évidemment, les fichiers, on a l'impression qu'il y a une différence essentielle entre ce qui pouvait être fait dans les années 20 dans les fichiers et ce qui est fait aujourd'hui avec Zotero, mais en fait, travailler par mots-clés, indexer, faire des mots-clés, c'est le même problème. Et ce qui est très intéressant, encore une fois, ce n'est pas tant de savoir les mots-clés que vous avez faits, c'est les compétences linguistiques et sémiotiques, sémiologiques qu'il faut pour, par exemple, créer des mots-clés. Ça demande des compétences, enfin voilà, un savoir-faire, et rassembler des éléments épars sous ces mots-clés. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant de voir qu'est-ce que vous rassemblez sous ces mots-clés, qu'est-ce que vous excluez, est-ce que ça change, est-ce que dans 10 ans, quand vous allez réouvrir ce dossier, est-ce que ça va être les mêmes mots-clés qui vont correspondre aux mêmes fiches, ou est-ce que ça va être autre chose. Et alors, on peut croire qu'effectivement le numérique nous permet ça, mais en fait, il y a des fichiers où vous pouvez tout à fait voir que le fichier est quelque chose d'entièrement dynamique. Que, en fait, tout au long de la vie d'un scientifique, d'un savant, il ne cesse de recomposer, de réorganiser son fichier. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, on peut le voir dans les effectivement avec du papier. On peut le voir chez vous, ce qui veut dire qu'effectivement, malgré les modes disciplinaires, malgré les innovations techniques, on continue à se poser un certain nombre de problèmes qui étaient déjà ceux il y a un siècle et qui étaient, à mon avis, même déjà ceux du XVIIe siècle. Donc là, on peut aussi avoir un dialogue historique bien plus profond, ce qui veut dire que peut-être que nous arriverons un jour à anticiper sur des choses et à sensibiliser les chercheurs au fait de garder plus d'éléments ou de verser des éléments signifiants de leur activité scientifique dans des fonds d'archives. Peut-être qu'on arrivera à ça un jour, je ne sais pas, peut-être. Mais c'est très compliqué et les chercheurs ne sont pas forcément les plus disciplinés de ce point de vue.
Alors, je voulais juste faire un commentaire et une question. Alors, je regarde conclusive, j'ai le droit encore une ou non. Un commentaire que je trouve vraiment passionnant, c'est le fait que dans la pratique de la recherche, on voit bien dans les échanges qu'on peut avoir, et je trouve que c'est intéressant de l'avoir dans une perspective historique, il y a toujours une interrogation sur quelle méthode, quoi. Est-ce que le lieu, de mon point de vue. C'est encore une fois, j'imagine que c'est partagé par d'autres chercheurs, mais est-ce que le lieu est propice à la recherche et à l'arrivée de nouvelles idées? Alors on tourne le bureau dans un sens, il y a trop de lumière, pas assez de lumière, il faut une lampe de bureau, un tableau pour pouvoir noter, éventuellement faire des piles, des dossiers, des machins. Est-ce que ça marche? Alors on va voir d'autres chercheurs, on va dire, mais toi comment tu fais? Est-ce que tu utilises Zotero? Est-ce que tu utilises BibTeX? Ah moi je fais comme ça, je fais des dossiers chronologiques. Enfin, cette quête permanente d'une forme de méthode. Et c'est pour ça quand tu disais à quoi ça sert, moi j'ai l'impression qu'il y a une forme d'angoisse à l'idée que si ça disparaissait, on pourrait passer à côté d'une forme de méthode, pas absolue, mais on se dit oh, un tel a fait comme ça, ça doit être la méthode qu'il faut qu'on... Et donc on retrouve dans ces archives une forme de quête de cette méthode. Parce que, alors ça c'était mon commentaire, et c'est pour ça que à plusieurs reprises ça m'a fait sourire, parce que c'est vrai qu'on se voit tous, enfin tous les chercheurs, quand il y a un côté égocentré des chercheurs déjà naturellement, mais en plus on se dit mais comment toi tu fais, comment on se dit trouvons une méthode. C'est pour ça qu'on disait faire des fiches, des gens qui ont fait des fiches, on sent bien qu'il y a je sais qu'on se retrouve à notre bureau à se dire bon alors maintenant voilà je vais écrire un article sur ça ou je vais qu'est-ce qu'on fait quoi, on ouvre Word, le curseur clignote intensément, on se dit bon alors par quoi je commence, faisons une fiche, allez comme ça c'est rassurant, c'est où on va, on avance comme ça. Il y a toujours cette angoisse de trouver, de dire c'est parce que mon bureau est tourné au sud et donc forcément je sais que un tel a son bureau tourné au nord, j'aurai beaucoup plus d'idées, ça va venir. On a toujours cette angoisse par rapport à ça. Et je trouve que c'est intéressant de le remettre dans une perspective historique. Alors, une question qui est un peu liée, c'est tous les exemples que, enfin, la majorité des exemples que tu prends sont des exemples des sciences humaines et sociales. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une dimension particulière du bureau pour les chercheurs en sciences humaines et sociales parce qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Enfin, souvent, pour beaucoup, on n'a pas besoin de beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a un lieu, contrairement à des chercheurs en sciences exactes dans lesquels il y a le laboratoire en lui-même qui va être un lieu de recherche particulier, des instruments qui sont souvent pas les nôtres, enfin, qui sont pas du chercheur, c'est une infrastructure de recherche qui appartient à un laboratoire, un observatoire, je sais pas quoi, un truc divers et varié. Et donc, il me semble, est-ce que tu vois une différence dans la construction des archives ou dans les méthodes que ces archives retranscrivent entre on va dire les sciences pour lesquelles la documentation se suffit à elle-même, enfin, voilà, ou un peu principalement, et des disciplines dans lesquelles forcément il y a un appareillage technique extrêmement important qui va rentrer en ligne de compte.
Est-ce que je vois une différence ? Non, pour moi, il n'y a pas de différence. Un fichier, c'est comme un microscope électronique. Enfin, et d'ailleurs, Lévi-Strauss disait ça quand il parlait de son fichier. Il disait... C'est exactement comme avoir un télescope quand on est physicien. Et quand on voit le fichier qui est faussement apparenté à Lévi-Strauss, mais qui est le fichier de son laboratoire, c'est 2,5 millions de fiches, donc c'est une salle entière qui est remplie de fiches, et il n'y a que des tiroirs. Mais évidemment, en même temps, c'est que du document, mais c'est en même temps un dispositif au sens foucauldien du terme, c'est-à-dire tirer un tiroir, tirer un autre, et c'est vraiment un dispositif qui consiste à faire du lien entre cette accumulation de savoir. Alors c'est peut-être ça la chose à mon avis qui est vraiment différente et qui est vraiment spécifique à cette première moitié du XXe siècle et qui touche surtout les sciences humaines et sociales à mon sens. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup amusé à faire ce livre sur les sciences humaines et sociales, à l'exclusion explicite des autres disciplines, mais ça je le dis dans le livre, c'est qu'il y a plus qu'une quête de méthode, c'est la question de l'accumulation. Et ça c'est un truc, c'est absolument délirant d'ailleurs. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on accumule, et comme on n'a jamais accumulé jusque-là. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à penser dans cette accumulation-là. Et donc, on trouve des systèmes de classement, on trouve des dispositifs, on trouve des choses, enfin voilà, on trouve des moyens, des systèmes, plus que des méthodes pour pouvoir continuer à penser, continuer à écrire, continuer à faire son travail de chercheur au milieu de cette accumulation dont on sait très bien, très vite, que on ne pourra jamais la digérer entièrement, évidemment. C'est ça aussi que ça veut dire. Le grand érudit du XVIIIe siècle qui pouvait être à la fois mathématicien, botaniste, philosophe et en même temps spécialiste de la météo, c'est fini. Donc vous êtes dans des domaines de spécialisation. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, toute cette histoire-là, il faut la mettre en rapport avec la construction des disciplines universitaires qui commencent à émerger à la fin du XIXe siècle. Vous avez aussi une quête de spécialisation très importante. Et donc, les chercheurs qui ont un idéal d'érudition très grand, de curiosité très grand, et en même temps, ils doivent lutter contre ce que l'université, quand ils sont à l'université, leur demande d'être, c'est-à-dire en professeur de philosophie ou professeur de linguistique et rien d'autre. Donc vous avez toujours cette espèce d'entre-deux et qui ne cesse de grandir tout au long du XXe siècle. Et en même temps, on peut faire une histoire parallèle de ce que je viens de faire avec l'histoire de la normalisation des disciplines universitaires et de l'université en tant que telle. Avant les années 20, il n'y avait pas d'heure de cours obligatoire. Vous venez, vous étiez prof, vous faisiez 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, tout le monde s'en foutait. Puis après, on vous oblige à faire 4 heures, puis après 6 heures, puis après vous devez faire de l'administratif, puis après vous devez faire ça, puis après vous devez faire ça. Et à chaque fois, évidemment, les enseignants qui sont plutôt des chercheurs curieux de tout, et ben, ils se retrouvent contraints à à rentrer dans ce moule-là universitaire, disciplinaire, et ça va avoir des impacts très directs sur leur manière de penser, leur manière de lire, leur manière d'appréhender le monde, etc., etc. Il faut déplier jusque-là d'une certaine manière. Donc, en tout cas, pour moi, c'est vrai que la différence essentielle entre les archives d'un mathématicien ou d'un physicien et celle d'un anthropologue, c'est peut-être la question, effectivement, du laboratoire. Après, la question du collectif, à mon avis, c'est la même chose. C'est-à-dire, on dit souvent, les sciences physiques ou les sciences dures, c'est un travail collectif, évidemment, mais en fait, dans les sciences sociales, c'est aussi du collectif, il y a de la coécriture. Bourdieu, Passeron, Foucault, Farge, Mauss et Hubert, enfin, ils travaillent à deux, ils coécrivent, il y a des laboratoires qui existent, etc. Donc le collectif, à mon avis, est une chose qu'on retrouve dans les deux. La différence essentielle, c'est plutôt dans le traitement de ces instruments et de ces objets. Mais à mon avis, tu vois, une bibliothèque, je peux le prendre aussi comme étant un dispositif du même ordre qu'un télescope ou qu'un microscope électronique. Et d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de fonds d'archives dans lesquels il y a aussi des objets. Pour Althusser, il y a sa machine à écrire, par exemple. Pour les linguistes, il y a des enregistreurs, il y a les phonographes, il y a tout ça, il y a des bandes. Donc on sort aussi du pur textuel, ce qui est un peu l'impression peut-être que j'ai donnée. Mais il y a aussi des objets. Qu'est-ce qu'on fait de ces objets? Il y a des lunettes, il va y avoir des téléphones portables, j'imagine. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces objets? Et ça, encore une fois, les archivistes ne sont pas nécessairement formés pour pouvoir traiter ces objets-là. Non pas qu'ils ne veulent pas le faire, mais parce que ça rentre dans aucun plan de classement. Voilà, tout simplement, il n'y a jamais objet. C'est dans divers, mais c'est jamais objet. Voilà.
Merci beaucoup. Effectivement, c'est un aspect qui nous revient directement, la question des compétences des professionnels de l'archive par rapport à la fois à ces questions-là et à l'environnement numérique auquel ils vont se heurter prochainement. Ça, c'est une question bien ancienne. On se posera plus tard. Merci beaucoup à toutes
merci
et à tous
vous.
D'être là ce soir. Et puis une annonce, non? Bonne
Pas
soirée alors.
Bonne
merci.
Soirée. Merci.